Europe 1.
Heures, sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous et bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter. Deux heures pour s'instruire, s'amuser et parfois aussi frissonner. Bonjour Mathieu, cet après-midi vaut mieux éloigner les enfants.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Ça dépend quel type d'enfant vous êtes. Vous par exemple, vous étiez difficilement choquable et puis avec l'âge, vous êtes devenu carrément attiré par ce qui normalement fait peur, comme par exemple le sang. On peut le dire Stéphane, puisque chez vous dans le Perche, on vous a surnommé affectueusement le Dracula de Thiron-Gardé. Dès que vous voyez du sang, vous êtes comme un dingue, vous vous dites.
Oh là là, ça donne faim.
Plutôt que d'en parler à un psy, vous avez décidé d'en faire une émission, si j'ai bien compris.
Absolument, vous avez tout compris, vous m'avez mis à jour, Mathieu. Aujourd'hui, on réunit trois personnages qui avaient du sang sur les mains. À commencer par un homme qui a tranché près de 400 têtes. Bah, c'était son métier en même temps, de père en fils. Je vous raconte le bourreau Anatole Debler qui a pris son rôle très au sérieux. Puis, lui avait du sang sur les mains et dans la bouche aussi, et c'était pas le sien. Je vous raconte Richard Chase, dit le vampire de Sacramento, un tueur en série qui tuait de sang-froid, mais aimait le boire chaud. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'une star du rock encore parmi nous, mais qui a eu aussi du sang sur les mains.
Oui, alors il n'a pas eu que du sang, il y a eu aussi un peu de cocaïne, de méthamphétamine, de MDMA, de l'ecstasy. Mais je vous raconte l'histoire du plus jusqu'au boutiste des rockers contemporains, le toujours vivant, et ça c'est un vrai miracle, Pete Doherty. Pete Doherty, qui à un moment de sa vie a faim avec son propre sang.
Et avec nous, comme chaque jour, celle qui nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et oui, moi je vais profiter de cette thématique sur le sang pour évoquer le boudin, bien sûr, mais le boudin, chant officiel de la Légion étrangère. Voilà, ah, magnifique, tous ces beaux douces paroles. C'est aussi un moyen d'adresser un hommage à mon collègue belge Olivier Pouls, parce que vous savez que dans la chanson,
les Belges,
on a plus sont des tireurs au cul, donc nous tirerons tout ça au clair tout à l'heure.
Vous donnerez un morceau de boudin quand même.
Oui, bien sûr. Ah.
Et puis avec nous, David Castello-Lopez, qui remonte aux origines d'une invention, une invention qui fait plaisir aux enfants.
Qui enchante et notre quotidien.
Oui,
notre
tout à fait. C'est la boule à neige. Cette petite boule qu'on donne à Noël, où il y a des petites scènes miniatures à l'intérieur. Et moi, je trouve ça très joli. Ça m'émerveillait beaucoup quand j'étais petit. Je vous dirais d'où ça vient.
On ne verra plus la neige bientôt dans nos contrées que dans les boules.
Oh, vous avez une manière de tourner les choses, Stéphane, vraiment, c'est magnifique.
Avec nous également, Olivier Pouls, qui remonte aux origines d'une recette.
Avec les boules, là, directement, on part pour
Olivier. Et puis je reste dans la thématique du jour, puisqu'il sera encore question de sang. Le canard au sang, grande recette.
Non, vous connaissez bien, je crois.
La tour d'argent.
Ah, oui, mais c'est pas lui qui l'a inventé, c'est pas là qu'elle est née. Ils en ont fait une grande spécialité, mais c'est pas là que la recette a été créée, je vous raconterai tout.
Et ça existe encore.
Oui, ça existe encore. Ça fait partie de ces plats indémodables qu'il faut avoir goûté au moins une fois dans sa vie un canard au sang.
Allez dire ça à Aymeric Caron. Enfin, dans un bain de sang, c'est souvent comme ça que se termine Bern to be alive. Qui sera le canard? Qui tiendra le couteau? Rendez-vous pour notre impitoyable quiz aux alentours de 5h-10. J'ai tellement de plaisir à être votre bourreau, un bourreau d'un supplice sans cesse renouvelé. Mais pour commencer cette émission, partons justement à la rencontre d'un confrère. Il y a ceux qui ont perdu la tête parce qu'ils ont vu Suzette. Puis il y a ceux qui l'ont perdu pour d'autres raisons. Lui, justement, en a fait tomber de nombreuses. Il avait un drôle de métier, il devait les trancher. Stéphane Bern nous raconte l'homme qui avait du sang sur les mains, mais la tête sur les épaules, le bourreau Anatole Debler.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Le 11 juillet 1892, l'anarchiste Ravachol est décapité à Montbrison pour avoir mené une vague d'attentats contre des magistrats et également tenté de s'en prendre à des commissariats à lourdes charges d'explosifs. Louis Debler, qui est l'exécuteur en chef de la République, officie. Dans son équipe, parmi ses seconds, il y a Anatole, son propre fils. Si Anatole Debler coupe des têtes, ce n'est pas le destin dont il rêvait. Retour à Rennes en 1870, le jeune Anatole a 7 ans lorsqu'il réalise le terrible métier qu'exerce son père. Il est bourreau, bourreau. Et pas seulement son père, mais son grand-père avant lui. Et toute une lignée avant son arrière-grand-père, les Debler, qui ont officié en Allemagne. Les Debler, qui ont francisé leur nom, sont donc une dynastie de bourreaux. Et le jeune Anatole l'a bien compris parce qu'il subit déjà les railleries de ses camarades dans la cour de récréation. Quand les enfants jouent aux gendarmes et aux voleurs, lui n'a pas sa place. On lui assigne déjà celle du coupeur de tête et se retrouve contraint de rester à l'écart. À 12 ans, Anatole quitte déjà les bancs de l'école, se fait appeler Anatole Boyer, du nom d'une arrière-grand-mère, et commence à travailler en tant que vendeur dans un magasin de confection, tout en se rêvant explorateur ou aventurier. Quoi qu'il en soit, Anatole, lui, ne sera pas bourreau. Même si, dans la tête de son père, Louis Desblaire, il n'en est rien. Lui sait sans doute qu'on ne peut pas échapper à son destin. Voici mon futur assistant et peut-être le futur exécuteur des hautes œuvres. C'est ainsi que Louis Desblaire, qui travaille à Paris comme adjoint du bureau Edenreich, présente fièrement son fils avant d'être nommé en 1879 exécuteur en chef pour le continent français. La loi a changé, il n'y a plus qu'un seul exécuteur pour tout le pays et c'est désormais lui. Oh, quelle belle promotion! À 19 ans, Anatole Desblaire, accompagnant son père, assiste alors à Versailles à sa première exécution d'un condamné à mort. Ce jour-là, à 6 heures du matin, Louis Desblaire et ses hommes exécutent Pierre Lantz. L'homme de 34 ans a été reconnu coupable de parricide. Il a tué son père à coups de pied et à coups de poing. À Versailles, le temps est pluvieux ce matin-là. L'huissier s'abstient alors, à la demande du pasteur, de lire l'arrêt de mort au condamné. En moins d'une minute, Pierre Lantz s'est retrouvé raccourci. Comme c'est allé vite de lui ôter la vie, Anatole comprend que tout dans la peine capitale ne doit se jouer qu'en quelques secondes. Lui ne veut pas faire ça. Pourtant, après 3 ans de service militaire dont il aurait pu être exempté au simple prétexte justement qu'il est le fils de bourreau, le piège auquel il voulait échapper s'est refermé sur lui. Desblaire rejoint Alger où son grand-père maternel est l'exécuteur de la colonie française. Anatole Desblaire se forme à ses côtés. En 5 ans, ce ne sont pas moins de 17 condamnations. Dès la première, Anatole commence à tenir un carnet. Au crayon de papier, il consigne soigneusement sous le nom de chaque exécuté la date et le lieu de sa condamnation, le motif pour lequel le condamné à mort doit être décapité. Il s'attache aux faits. Est-ce un fils parricide? Est-ce un empoisonneur ou un anarchiste qu'il exécute? Et il est peu de dire qu'il ne semble accorder autant de mansuétude à tous ces condamnés à mort. Des carnets qu'il continue de noircir en France où il rejoint son père qui vient de perdre un assistant. À présent, les Desblaire, père et fils, font office ensemble. À la lecture de ces carnets qui sont parvenus jusqu'à nous, on peut se demander si Anatole ne cherche pas à alléger sa conscience de bourreau. Sous l'écriture appliquée du jeune homme, il semble chercher une justification au geste de donner la mort. Alors bien sûr, il le fait au nom de la justice française de l'époque, mais compiler toutes les accusations retenues contre les condamnés à mort ne serait-ce pas le signe que l'acte de faire tomber les têtes révulse quelque peu Anatole Desblaire. Les années s'écoulent, les têtes continuent de tomber dans les corbeilles. Anatole Desblaire participe à 68 exécutions pour les services de son père qui, semble-t-il, au fil du temps, est peu à peu en train de devenir fou. Il s'enferme dans la salle de bain, s'y frotte les mains durant des heures, en hurlant qu'il ne pourra pas les laver tant il est lui-même ensanglanté. Anatole Desblaire, lui, va sur ses 30 ans et il n'est toujours pas marié. Il faut dire qu'au point de vue sentimental, il doit essuyer des refus. Bourreau, voyez-vous, ce n'est pas le métier du gendre idéal, pas celui dont rêvent les femmes en tout cas. Un jour, alors même qu'il demande la main d'une jeune fille à un père qui conduit les convois des condamnés à mort, il la lui refuse. Ils font pourtant presque le même métier, ils travaillent ensemble chaque fois. Mais pour les parents, pas question que leur fille épouse un bourreau. Finalement, en 1898, Anatole épouse Rosalie. Elle est issue, elle aussi, d'une famille de bourreaux. Tel un petit bourgeois, il se crée un groupe d'amis dans le 16e arrondissement de Paris où ils ont emménagé. Anatole semble parvenu à faire oublier le sanglant métier qu'il exerce. Tout le monde l'apprécie, notamment pour sa gentillesse. Et après tout, pour bon nombre d'honnêtes citoyens, n'est-il pas celui qui débarrasse la planète de tous les êtres malfaisants qui auraient pu s'en prendre à eux? L'année suivante, Louis Desblaire démissionne. Aussitôt, Anatole est nommé exécuteur en chef des arrêts criminels de France. Dès le mois de janvier, Anatole Desblaire officie à Troyes. Mais c'est à Paris, devant la prison de la Roquette, le 1er février, que va naître le mythe Anatole Desblaire. Ce jour-là, on exécute Alfred Peunier, qui a commis un double assassinat. Anatole apparaît alors que le jour n'est pas encore levé. Il arbore un chapeau haut de forme et une redingote à queue de pie. Il s'est inventé un costume de monsieur loyal de l'exécution de la peine de mort. Le public, qui se masse pour assister aux exécutions, aime ça. et les journalistes le décrivent aussitôt comme un bourreau moderne saluant son agilité et son aisance de vieux praticien. Mais derrière ce costume, Anatole Desblair ne cache-t-il pas quelque chose ? Cette année 1899, le président Émile Loubet est élu en France. S'il n'est pas clairement abolitionniste, ce n'est pas non plus un partisan de la guillotine. Et voilà que le mouvement abolitionniste va justement peser sur la destinée d'Anatole Desblair. Ces années-là, si les cours condamnent à tour de bras, le président accorde des grâces, il commue les peines de mort contre des bagnes à perpétuité. Peu à peu, Anatole Desblair a de moins en moins de têtes à trancher. Pour boucler les fins de mois, le voilà qui devient représentant en vin de champagne. Pour qu'on ne l'identifie pas, il prend le nom de jeune fille de sa femme Rosalie et se fait appeler Anatole Rogis. La France continue de se diviser entre ceux qui veulent abolir et ceux qui veulent maintenir la peine de mort. Puis, passé les Clémenceau, les Jaurès abolitionnistes convaincus, c'est finalement la Première Guerre mondiale qui vient redonner du travail à Desblair. On raccourcit d'abord les traîtres à la patrie. À cette occasion, Desblair est même appelé à exécuter un condamné sur le sol belge et un autre sur le sol allemand. Puis 1922 arrive. C'est l'année au cours de laquelle Desblair a l'ordre d'exécuter Landru. Il a toujours ses carnets et il note « Assassinat de 10 femmes et d'un jeune homme ». Il connaît tout du procès. Les restes de corps retrouvés dans la cuisinière à Gambet. Il connaît aussi la fascination du public pour une pareille affaire et cela lui pose manifestement problème. Le lendemain de l'exécution de Landru, dans la presse, Anatole Desblair constate combien il est héroïsé. Et cela l'attriste. Les exécutions sont publiques et malgré lui, il en est la vedette. Alors, Anatole Desblair continue à noircir ses carnets. En fumant cigarette sur cigarette, il est insomniaque. Même s'il ne le dira jamais, sa charge de bourreau, ce trop lourd destin lui pèse. Travailler comme exécuteur, certes, mais Desblair a la morale qu'il travaille. Bien des fois, il a de l'empathie pour ses condamnés. D'ailleurs, dans ses carnets, il les désigne comme ses patients. Il dit d'ailleurs que c'est seulement à eux qu'il doit sa vitesse d'exécution. Mais malgré sa tête pleine de mauvaise conscience, Anatole Desblair assume sa charge de bourreau jusqu'au bout, ou presque. Alors qu'il reçoit un ordre d'exécution pour Rennes, il ne s'y rendra pas. Il ne reverra pas la ville où il est né. Desblair s'effondre soudainement. Le 2 février 1939, dans un escalier de la station de métro Porte de Saint-Cloud à Paris, avec le sentiment du devoir accompli, et après avoir tranché près de 400 têtes.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour essayer de mieux cerner encore Anatole Desblair, nous sommes avec l'historien qui lui consacre son dernier livre. Bonjour Gérard Jaguer.
Bonjour, comment allez-vous ?
Bien, merci beaucoup. Bonjour Gérard Jaguer. Vous venez en effet de publier Anatole Desblair, l'homme qui trancha 400 têtes aux éditions du Félin. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher sur cette tête ?
Eh bien, tout d'abord, je suis un peu spécialisé dans cette époque, la Belle Époque, c'est une rencontre fortuite et tout à fait inopinée qui m'a conduit à m'intéresser à ce bourreau. J'étais un jour dans un train et mon compagnon de voyage, que je ne connaissais pas bien sûr, me parle de son métier, de sa passion, et le voici collectionneur de curiosités, comme on dit. Et voilà qu'il m'avoue avoir mis la main fort récemment sur des archives inédites et tout à fait spectaculaires, les carnets d'un bourreau, le dernier bourreau dynastique de la République, qui lui venait de la fille même du bourreau Anatole Desblair. Vous pensez bien que je n'ai pas hésité une seconde, après cette lecture incroyable, d'en faire un livre.
Alors justement, c'est quoi les choses les plus surprenantes que vous avez découvertes dans ces carnets ?
Mais écoutez, j'ai l'impression que c'est la grande pudeur. La pudeur d'un homme qui n'était pas fait pour cela, votre récit l'explique bien. Et puis aussi cette rigueur à la fois, je dirais, morale de son époque, qui veut que lorsque l'on fait un travail, on le fait bien. Mais tout cela, je l'ai lu entre les lignes, bien entendu. Il a fallu ensuite que je les interprète.
Stéphane disait dans son récit qu'Anatole Desblair semble, à chaque exécution, chercher une sorte de justification au geste de donner condamné à mort. Il y a pour lui des têtes plus faciles que d'autres à trancher ?
Alors, des sympathies, il en avait plus ou moins. Il ne le dit pas ouvertement parce que ça ne se fait pas, mais on le sent. On sent parfois que lorsqu'il disserte beaucoup sur un personnage, ça veut dire qu'il tente soit de le justifier, soit de le comprendre. Et puis, lorsqu'il est beaucoup plus laconique, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'il est d'accord avec le jugement.
Mais Anatole Desblair est connu pour avoir tranché près de 400 têtes. Ça, c'est un chiffre qui nous paraît impressionnant. Ça l'était ou pas tant que ça, finalement ?
Alors, ça ne l'était pas tant que ça. Alors, on a arrondi pour le sous-titre du livre 400 têtes. En réalité, c'est 396. On voit qu'on n'est pas loin du compte. Mais son père et son grand-père, qui l'a servi, comme vous le savez, ont également tranché environ le même nombre de têtes. Je ne parle pas, bien sûr, du temps de la Révolution française où la guillotine qui venait d'être inventée en a, bien sûr, tranché beaucoup plus. Mais sous la République, je dirais, et jusque à son abolition, on peut dire que oui, 300 ou 400 têtes étaient assez courants. Dans les dernières années, je dirais les années Giscard, où bien entendu il y en avait beaucoup moins parce qu'il y avait moins de condamnations.
On dit qu'il avait une certaine agilité, c'est-à-dire que la lame descendait vite, c'est ça ? Il avait le coup sûr.
Et... Oui, c'est exactement ça. Dès ses premières exécutions en tant que chef exécuteur des hautes œuvres, lorsqu'il a succédé à son père, immédiatement, on s'est rendu compte que c'était un homme qui avait une dextérité extraordinaire, contrairement à certains autres, et parfois même à son père, qui parfois hésitait. Il se faisait un point d'honneur à être le plus rapide possible, encore une question d'excellence probablement.
Alors, Anatole Desblair a tranché, on l'a dit, près de 400 têtes, 396 pour être exact, à contre-cœur finalement, puisqu'on a bien compris qu'il ne voulait pas faire ce métier. Son père et son grand-père étaient exécuteurs avant lui, certes, mais comment ça se fait qu'il n'ait pas pu échapper à ce destin si vraiment il n'en voulait pas ?
Vous savez, je crois qu'il y a deux raisons à mon sens. La première, c'est l'époque d'Anatole Desblair, une époque où l'on ne disait pas souvent non à ses parents, où la stature de son père était tellement impressionnante pour lui qu'il n'a pas pu très longtemps chercher une autre vocation. C'était dire oui, c'était une époque. Et puis aussi, je pense qu'il y a la nature même d'Anatole qui est un homme de conscience. Et quand on lui demande quelque chose, quand on lui confie une mission, il la fait jusqu'au bout et surtout, il la fait bien. Pour lui, ce qui va peut-être mettre un peu de baume sur ses plaies et sur cette vocation contrainte, c'est la dignité. Un jour, Anatole croise la fille d'un condamné à mort dans les couloirs du palais de justice et cette femme se précipite vers lui en lui disant « Monsieur Desblair, offrez-moi le privilège d'assister à l'exécution de mon père. Je veux être à vos côtés près de la guillotine. » Outré, bien sûr, Anatole Desblair la regarde de haut et lui dit « Un peu de dignité, madame. » Cette réflexion a été rapportée, elle est tout à fait authentique et je pense qu'elle explique bien le caractère d'Anatole Desblair.
Je racontais qu'Anatole Desblair portait un costume de Monsieur Loyal pendant les exécutions avec chapeau de forme, queue de pie. C'était pour donner du prestige à sa fonction ou pour montrer peut-être aussi un certain respect face à l'exécuté ?
Alors, vous avez raison de parler de respect, je parlais de dignité. C'est un peu la même chose, mais il faut dire aussi que c'était la tradition. La façon dont il se vêtait était celle des endimanchés, de ceux qui vont à la Comédie française, de ceux qui vont au spectacle. Et puis, c'était le haut de forme et la queue de pie, notamment, un élément du costume de son époque. On verra sur les photographies postérieures, Anatole Desblair changeait de costume en même temps que la mode changeait. C'est-à-dire que ça n'était pas un travestissement ou un costume de scène, mais c'était le vêtement que tous les hommes portaient à cette époque-là. Une des dernières photos d'Anatole Desblair que l'on voit déambulant dans Paris, il est avec un costume et un chapeau mou, on est dans les années 30.
Et vous qui avez étudié minutieusement les 14 carnets d'Anatole, comment est-ce qu'il entrait dans l'intimité des condamnés, ceux qu'il appelait lui-même ses patients ? Est-ce qu'il s'entretenait avec eux ? Est-ce qu'il assistait à leur procès? Comment ça se passait?
Alors, il ne s'entretenait pas avec eux, jamais il n'aurait voulu le faire, précisément pour ne pas entrer dans cette intimité dont vous parlez. Bien que certains condamnés, vous parliez de Landru tout à l'heure, aient eux dit certaines choses qui ont été ensuite consignées dans les carnets d'exécution par Anatole lui-même, un peu pour mettre un point final à ces chapitres. Landru, lorsque son avocat, en présence d'Anatole Deblaire d'ailleurs, lui demande « Mais alors Landru, maintenant que tout est fini, vous n'avez plus rien à cacher, dites-moi la vérité, vous les avez bien toutes trucidées. » Et Landru se tourne vers son avocat, Anatole en est témoin, et lui réplique « Je ne vous dirai rien, c'est mon petit bagage. » Ces mots de la fin, en quelque sorte, sont assez célèbres. Ils ont traversé le temps, grâce à Anatole d'ailleurs. D'autres ont dit, comme les anarchistes, « Vive, bien sûr, l'anarchie » ou « Mort aux vaches ». D'autres à qui on donnait un petit verre de rhum et une cigarette disaient « Non, non, je n'en prends jamais, c'est mauvais pour la santé ». Enfin, des petites choses comme ça qui ont rendu le personnage d'Anatole Deblaire sympathique. Et lorsque je travaillais sur les carnets et que j'en parlais un peu autour de moi, les gens un peu étonnés me disaient « Mais au fond, c'était un gentil ».
Stéphane racontait aussi, et c'est un point sur lequel j'aimerais revenir pour finir, qu'avec toute cette ferveur populaire autour de lui, la presse traitait Anatole Deblaire en véritable héros parfois. Pourtant, il en a beaucoup souffert de cette image de vedette.
Oui, bien entendu, parce que comme il ne souhaitait pas montrer qu'il avait cédé aux ordres de la tradition... il essayait de se faire le plus discret possible. Alors, s'il était perfectionniste et qu'il acceptait qu'on dise que c'était un bon professionnel, il fallait surtout qu'après l'exécution, lorsqu'il redevenait Monsieur Anatole Deblaire, citoyen et petit bourgeois du 16e arrondissement, il fallait qu'on l'oublie et que ce ne soit plus qu'Anatole et non plus Deblaire.
Dans le livre, vous écrivez que lorsque ces carnets ont été vendus aux enchères, Anatole Deblaire a été de nouveau montré comme un bourreau sanguinaire, alors que ce n'était pas du tout le cas, et vous le dites précisément. Avec ce livre, au fond, vous voulez rendre honneur à sa mémoire.
Oui, je voudrais, grâce à la découverte de ces carnets, qui sont retombés maintenant dans le domaine public, je voulais rendre hommage à la vérité d'un homme, finalement à sa conscience, et non pas seulement à la dextérité de sa main. Alors bien sûr, c'était un bourreau, bien sûr, il effrayait d'une certaine manière, mais il fascinait aussi. Et ces deux visages sont les deux faces d'une même personne, très complexe, et c'est ce qui le rend naturellement intéressant et aussi attachant.
Merci beaucoup Gérard Jaguer d'avoir été avec nous. Pour en savoir encore plus sur ce bourreau malgré lui, je rappelle le titre de votre livre, Anatole Deblaire, L'homme qui tranche à 400 têtes, paru aux éditions du Félin.
Merci.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h. Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires pour lesquelles elle s'engage à tout nous dévoiler. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui me regarde en souriant.
Oui, je souris. Oui.
Oui. Aujourd'hui, Clémentine, vous vous engagez dans la Légion étrangère pour nous raconter l'histoire d'un chant que l'on connaît tous, même quand on n'a pas fait l'armée. Et puis, ils sont applaudis le 14 juillet lorsqu'ils passent sur les Champs-Élysées. C'est la Légion étrangère avec « Tiens, voilà du boudin ».
Et oui, moi, je connais ça par cœur. J'aime la Légion étrangère. Hein. Je vous ai déjà raconté pourquoi. Non, mais j'ai parce que c'est un médecin de la Légion étrangère qui m'a sauvé la vie quand j'étais bébé en Afrique.
Ah oui,
donc
vrai.
Moi, j'ai la reconnaissance du ventre. Je vous l'avais raconté.
Oui,
et j'aime la Légion. Et je ne perds jamais une occasion de lui rendre hommage. Et là, évidemment, comme on parle de sang, eh ben, tout naturellement, j'ai pensé au boudin. Mais saviez-vous que c'est un corps d'armée qui a été créé par Louis-Philippe en 1831 dans l'idée de constituer les premières troupes coloniales qui iraient en Algérie d'abord et ensuite au Tonkin notamment. Mais l'idée de départ, c'était de regrouper les différents corps d'armée étrangers qui avaient toujours eu au service de la France. Les fameux gardes suisses à Marignan de François Ier, les gardes suisses qui se sont fait tous abattre au moment de la prise des Tuileries en 1792. On a revivifié, recréé ce corps d'armée et les couleurs rouge et vert de la Légion, ce sont les couleurs des gardes suisses suisse de Louis XVI, figurez-vous. Et alors, ce chant de la Légion étrangère, le Boudin, il a été composé par Willem et Dussenty, qui tous deux furent chefs de la musique militaire. Et dans ce chant qui commence par « Tiens, voilà du Boudin », je me tourne vers Mathieu, qui, si ça se trouve, ne le sait pas. Qu'est-ce que c'est que le Boudin ? Est-ce que c'est le sang de l'ennemi ? Le sang de l'ennemi ou une toile de tente ? Qu'est-ce que c'est que le Boudin ? Tiens,
tente.
Voilà du Boudin. Oui, c'est une toile de tente qu'on roulait très serrée.
Un point pour moi.
On l'a posée sur le barda ou sur le sac et c'est donc sa forme qui l'a fait surnommer Boudin. Mais alors, est-ce que vous savez pourquoi, quand on dit pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains, pour les Belges, il n'y en a plus ? Pourquoi s'il n'y en a plus pour les Belges ?
Pourquoi donc ?
Alors, il y a plusieurs explications, mais la plus crédible, c'est que lorsque la guerre de 70 a éclaté, le roi des Belges, Léopold II, a demandé le rappel de tous les Belges qui s'étaient engagés dans la Légion étrangère. Pourquoi ? Parce que quand la Belgique a été créée en 1830, en 1831, on lui intime l'obligation d'être un pays neutre. Et donc, quand la France rentre en guerre contre les Prussiens, Léopold II rappelle les légionnaires belges. Et donc, ils doivent restituer leur pactage.
D'accord.
Et sous les colibés des camarades. Et c'est ça l'explication. Pour les Belges, il n'y en a plus du Boudin. Rendez-nous vos tentes parce que vous retournez en Belgique. Vous n'allez pas vous battre avec nous. Vous nous laissez tomber. Et plus encore que ça, en 1871, au moment de la guerre franco-prussienne, la Légion étrangère a suspendu les engagements volontaires d'étrangers et spécifié que seuls les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains pourrait désormais rentrer dans la Légion parce que, comme l'Alsace-Lorraine est devenue allemande, il y a plein de jeunes qui sont engagés dans la Légion étrangère pour ne pas devenir allemand et pas avoir à faire leur service côté allemand. Donc jamais la Légion étrangère n'a été aussi jeune qu'à ce moment-là. Et d'ailleurs, dans la fameuse bataille de Cameron en 30 avril 1863, qui est la bataille mythique de la Légion étrangère parce que ce sont 60 légionnaires qui ont été opposés à 2000 Mexicains dans ce petit village de Cameron, le plus jeune d'entre eux était un Polonais, il avait 19 ans, il s'appelait Gorski. Donc sur la Légion a des traditions très fortes et notamment elle a un certain nombre de privilèges, par exemple elle est la seule à avoir le droit de conserver ses étendards. Bon, sur son drapeau, il y a évidemment Cameron et Dien Bien Phu. Et à Aubagne, au musée de la Légion étrangère, il y a un fanion qui avait été mis en pièces par des légionnaires français à Dien Bien Phu. Ils ont été arrêtés, ils ont été faits prisonniers. Ils ont mis en pièces leur fanion. Ils ont caché des morceaux sous leurs pansements ou là où ils pouvaient dans leurs chaussettes. Et tous ceux qui ont survécu après leur rapatriement en France ont reconstitué le fanion de la Légion étrangère à Dien Bien Phu qu'on peut voir à Aubagne. Attendez, c'est magnifique. Alors, dernière question, Mathieu, est-ce que vous savez pourquoi la Légion étrangère passe toujours en dernier dans le défilé du 14 juillet ?
Parce que c'est les meilleurs.
C'est les meilleurs, ça c'est sûr, mais il y a une raison technique, c'est que la Légion défile plus lentement que les autres corps d'armée. Mmh. Elle défile à 88 pas minute, ça s'appelle le pas Légion, mais le pas Légion est aussi le pas des troupes napoléoniennes. Ça a beaucoup d'allure. Hein.
Mmh. Ah voilà, je me disais qu'il y avait un lien avec Napoléon.
Il y a un lien avec Napoléon. Oh, et pour finir, alors sachez que depuis sa fondation par Louis-Philippe, il y a plus de 36 000 légionnaires qui sont passés sous les drapeaux de la Légion étrangère et que sa devise est « La Légion est ma patrie ». Magnifique. Je vous sens, vous êtes bouche bée. Je pense que vous êtes à deux doigts d'aller vous engager dans la Légion étrangère.
Qui va tenir le crachoir ici. Merci beaucoup, Clémentine.
Et moi, personnellement, je ne savais pas. Hein. Je l'ai deviné quand vous avez posé la question, mais je ne savais pas que le Boudin, ce n'était pas du Boudin. Vous saviez,
mais
vous, Stéphane,
mais ça fait des années que ça me rend folle quand je regarde le défilé de la Légion.
Mais non,
il
n'y
a jamais personne pour dire qu'est-ce que c'est que le Boudin. Pourquoi est-ce qu'ils ont une ceinture bleue? C'est parce que dans les troupes coloniales, pour éviter la
dissenterie.
Mais ça, oui, mais ça fait longtemps.
Pour
éviter la dissenterie, les flux de ventes, on se serrait très fort les maux de ventre pendant la journée d'active, une immense ceinture bleue, il fait un peu comme les Saint-Simoniens, il fallait que le copain t'aide à l'enrouler autour du corps, comme ça. Il y a le képi blanc était on le passait dans du marc de café, parce que quand on était en Algérie, un képi blanc trop neuf, ça faisait du légionnaire une cible trop facile. Il y a des tas de traditions comme ça qui sont des, à la fois dans des petits détails, la cravate noire des marques marins, tous ces détails-là.
Vous êtes prête pour écrire un livre, à mon avis.
Je viendrai ici volontiers le 14 juillet.
Le 14 juillet, je pense qu'on sera en vacances. Vous pourrez venir tout seul si vous voulez.
Je viendrai tout seul, mais oui, pour la Légion, que ne ferais-je pas.
Beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas la réponse, mais ce n'est pas grave puisque c'est moi qui les pose. C'est le quiz et c'est dans un instant. À tout de suite.
Europe 1.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, je forme un vœu que Stéphane soit un jour aussi savant sur la préhistoire, la protohistoire, l'Égypte antique et la conquête spatiale qu'il l'est sur l'histoire de l'alcool.
Quand vous savez que la Cronenbourg est de 1664...
Jouons à Burn to be Alive. Stéphane, la première question est pour vous. Adrian Carlton de Villar fut un général britannique de grand charisme. Il a participé à la Première ainsi qu'à la Deuxième Guerre mondiale. Puis, il a écrit ses mémoires. Il y a un chapitre appelé « What a bullshit war », c'est-à-dire « Quelle connerie de guerre, quelle guerre de merde ». Vrai ou faux ? Vous connaissez ce général britannique ?
Je ne le connais pas du tout. Je ne le connais pas du tout. Si ça se trouve, cet homme, au contraire...
Au contraire quoi ?
N'a pas écrit ce livre, ne s'intéressait pas du tout au sujet.
Enfin. Ou alors c'était quelle magnifique guerre. C'est peut-être tout le contraire. What a bullshit war. Voilà. Cela dit, les Anglais ont suffisamment d'autodérision pour être capables de l'écrire.
Oui, mais on va apprendre qu'en fait, il était un général au 18e. Et là,
il me semble qu'il y a est-ce que c'est pas un général anglais qui a été le plus décoré de la guerre de 14 et qui aurait fait les deux guerres et qui serait un des plus grands héros des deux guerres?
Bon, je vais dire oui.
Vous avez perdu.
Voilà. C'est pas faute d'avoir été aidé pourtant, Stéphane, hein? Clémentine vous a donné la solution. C'est faux, c'est l'inverse. Vous-même, vous aviez amorcé cette pensée.
Si on ne sait pas, on ne sait pas.
C'était l'inverse. Il est connu, ce général britannique, pour avoir été un général extrêmement courageux. Il a perdu un œil, un poumon, une partie d'oreille. Il a survécu à plusieurs crashs d'avion. Il s'est même, tenez-vous bien, amputé les doigts avec les dents. Oui, ses propres dents. Et quand il a écrit ses mémoires, il a écrit la phrase « Franchement, j'ai adoré la guerre. »
Ouais, il aurait pu écrire, c'était de la merde.
Oui, il aurait pu, mais il a adoré, c'est ça qui est fou. Alors qu'il s'était bouffé les doigts avec ses dents. Mais comment,
je ne sais pas. Les doigts de pied ou les doigts de...
Il était souple en plus, je crois qu'il s'agissait des doigts de sa main. Soyons précis. Question numéro 2 pour vous, Clément Portier-Kaltenbach. Question institution politique contemporaine et personnalité républicaine actuelle. Marine Le Pen ne se prénomme pas Marine et Jean-Marie Le Pen ne se prénomme pas Jean-Marie. Vrai ou faux ?
Vrai.
Jean-Marie Le Pen ne s'appelle pas Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen ne s'appelle pas Marine Le Pen. C'est votre réponse ?
Oui.
Vous avez gagné !
Et c'est une bonne réponse. Bravo. Effectivement, mesdames et messieurs, Jean-Marie Le Pen s'appelle Jean, tout court. Quant à Marine, elle s'appelle Marion.
Oui, ça je le savais.
Quant à Marion Maréchal, elle s'appelle Marion.
Sur Jean-Marie, je n'étais pas sûr, mais sur Marine, je le savais.
Donc nous avons 1-0. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. 1974, c'est le décès de Georges Pompidou. C'est la naissance de Kate Moss. On y gagne. Mais c'est aussi la naissance du Rubik's Cube. Son papa, c'est Erno Rubik. À l'origine, toutes les faces avaient la même couleur. Vrai ou faux ?
Toutes les faces avaient la même couleur.
Mais c'est aberrant,
ça n'aurait
voyons.
Pas de sens.
Moi, je me contente de poser bêtement les questions. Je ne me permets pas d'avoir un avis sur les choses.
Quel aurait été l'intérêt du jeu ? Peut-être
si
simplement un truc pour se désénerver, là, un truc comme ça. Déstressant.
Comme une boule anti-stress, mais cubique.
Non, je trouve ça ridicule. Je vais dire non, je vais me planter, mais je vais dire non.
Je vous inciterai plutôt à réfléchir.
Alors, je vais dire oui.
Oui, génial. Il s'est rattrapé au dernier moment. Ça, c'est vraiment l'esprit supérieur de Stéphane Bern. C'est vrai, oui. À l'origine, son inventeur avait créé le Rubik's Cube pour ses étudiants en architecture. Il fallait qu'ils devinent le mécanisme interne. Donc, rien à voir avec, comme vous l'aviez dit, un anti-stress, quoi que ce soit. C'était pour ses étudiants en architecture. Plus tard, on a mis des couleurs et l'objet a rencontré le succès qu'on connaît sous la forme de jeu. Un partout. Question numéro 4 pour vous, Clément. Elisabeth Rachel Félix fut une actrice du 19e siècle, un modèle pour Sarah Bernhardt. Elle a eu des liaisons amoureuses avec Alfred de Musset, Louis-Napoléon, le comte Walewski, fils naturel de Napoléon Ier. Cette actrice est à l'origine d'une jurisprudence sur le droit à l'image, vrai ou faux ?
Ah, c'est intéressant. Écoutez, pourquoi pas ? Parce que si elle a été la maîtresse de Walewski, donc sous le Second Empire, donc c'est, elle doit être morte dans les années peut-être 1880-90. Est-ce que à cette époque-là, il y a des publicités ? Je pense que on n'a pas envie que son image soit galvaudée. Oui, moi, je dirais pourquoi pas, oui. Bah, c'est peut-être ça, je verrais plutôt ça avec Sarah Bernhardt. C'est ça qui m'étonne dans votre histoire.
Alors, réfléchissez bien.
Réfléchissez bien. Bon, j'allais dire oui, mais je verrais plutôt Sarah Bernhardt en train de s'énerver sur son image sur des boîtes à camembert. Donc, je vais répondre en fait non. C'est plutôt Sarah Bernhardt.
Vous avez perdu.
Et c'est une mauvaise réponse, ce qui m'arrange, d'où mon grand sourire.
Vous êtes dégueulasse, hein, parce que vous m'avez...
Écoutez, ouais. C'est vrai qu'elle est à l'origine d'une jurisprudence sur le droit à l'image, cette Elisabeth Rachel Félix. À sa disparition, un dessin d'Elisabeth est publié. Il a été dessiné à partir d'une vraie photo de l'actrice morte. Sa sœur a saisi la justice.
Ah oui.
Et ouais. Le juge lui a donné raison. Tout simplement, c'est le début du droit à l'image. D'accord. Question numéro 5, elle va vous départager. Attention, là, j'attends beaucoup de rapidité et beaucoup de jugeote. Pierre-Nicolas Thomas Hurtaud est un collègue à vous. C'est un historien du 18e et il a par exemple écrit un ouvrage en 1775 intitulé « Agrégé historique et portatif des rois mérovingiens ». Parmi les autres livres qu'il a écrits, il y en a un de particulièrement décalé. Trois propositions de titre, lequel est vrai ? La Révolution royale, l'art de péter, la loi du talion chez les édentés.
2.
Stéphane, vous venez de répondre qu'il a écrit « L'art de péter ».
Oui, oui.
C'est comme ça que vous voyez Pierre-Nicolas.
Bah oui, parce que
on aurait parlé de flatulence, pas du pet, de toute façon. Moi, je dis 1, la Révolution royale, c'est ce qui est un oxymore.
Vous dites 1, mais qui a gagné le quiz alors ? Mais c'est Stéphane Bern qui a gagné.
Quoi ?
Car Stéphane
sur l'art de péter ? Un livre du 18e ?
Bien sûr, « L'art de péter », 1751. Ouais.
Vous avez ça
complet.
Dans votre bibliothèque ?
Non, je n'ai pas ça.
Ah bah, il faut absolument vous procurer. Le titre
là,
complet...
Là, vous avez pris un vent. Hein.
C'est pas « L'art de péter ». Vas-y, allez-y, dites-nous.
Le titre complet était « L'art de péter, essai théorico-physique et méthodique à l'usage des personnes constipées, des personnes austères, des dames mélancoliques et de tous ceux qui restent esclaves du préjugé.
Mais il avait je vais vous l'offrir, je vais voir si je trouve ça sur un,
et voilà. Sur un book, site. Abbebook.
On en apprend tous les jours.
sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission d'histoire d'humour la plus écoutée, non seulement en France, mais au monde, Stéphane. Est-ce parce qu'on est les meilleurs ou simplement parce que c'est la seule ? N'enquêtons pas plus loin.
Oui, vous avez raison. Et rappelons plutôt notre programme du jour. Montrez-moi vos mains, Mathieu.
Oui.
Ça va, elles sont propres. Enfin, relativement, ce qui n'est pas le cas de nos personnages du jour.
Ah, ça non, Stéphane, ils avaient tous les trois du sang sur les mains. Et pas seulement du sang de canard.
Non. Eux ont eu du sang humain sur les mains. Après le bourreau Anatole Desblaires, je vous raconte la folle histoire d'un tueur en série qui tuait ses victimes de sang-froid et buvait leur sang. Son nom, Richard Chase, dit le vampire de Sacramento. Mmh. Ça fait froid dans le dos. Et plus proche de nous, Mathieu, vous nous raconterez la vie pour le moins excentrique du rocker anglais Pete Doherty.
Oui, c'est simple, Stéphane, on ne fait pas plus rocker et pas plus anglais que Pete Doherty, dont ses médecins se demandent comment il peut toujours être en vie. Portrait de celui qui est vraiment l'antithèse de David Castello-Lopez, un monsieur qui calcule rarement ses calories, vous verrez, mais qui joue aussi avec son sang pour faire des peintures.
Et justement, David Castello-Lopez, vous nous racontez des origines d'une invention, les...
Tout à fait, les boules à neige aujourd'hui. Les boules à neige, ces petits objets qu'on achète quand on va en voyage.
Il y a un mec qui a inventé la boule à neige ou c'est une invention collective ?
Il y a un mec qui est considéré comme l'inventeur, on verra que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça.
Oh, comme toujours.
Mais, ouais.
Avec nous également Stéphane pour nous parler. Alors aujourd'hui, Olivier Pouls, votre recette est pile dans le thème du jour puisque vous nous parlez du canard au sang.
Mais oui, si vous en préparez, vous aurez aussi probablement du sang sur les mains. Qui a inventé cette recette ? D'où vient-elle ? Et puis je vous donnerai évidemment les astuces pour réaliser chez vous votre propre canard au sang si vous êtes affamé.
Enfin, vous savez ce qu'on dit, le sang appelle le sang. C'est pourquoi, suivant nos instincts les plus bas, nous céderons en fin d'émission à l'appel irrépressible de la violence. Nous nous défierons. Dans la lutte finale, le sang giclera, les larmes couleront et un vainqueur émergera du chaos. Vous avez hâte ? Mais d'abord, découvrons notre deuxième personnage qui avait du sang sur les mains et pas qu'un peu. Il a tué de sang-froid. Et parfois, il a bu le sang de ses victimes encore chaud. Il était surnommé le vampire de Sacramento.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Le 28 janvier 1978, à Sacramento, en Californie, le FBI se rend au domicile de Richard Trenton Chase pour l'arrêter. La veille, l'homme de 28 ans a commis pas moins de 4 assassinats, tuant tour à tour Evelyn Meroth, son fils Jason, âgé de 6 ans, son neveu de 22 mois, David, ainsi qu'un ami d'Evelyn, Danny Meredith. Sur la scène du crime, la maison d'Evelyne Miros, il avait laissé des traces de sang partout. Sur l'une d'elles, ce sont les marques de ses deux mains qui ont été retrouvées. De parfaites empreintes digitales qui signent clairement le crime de Richard Chase. L'Amérique, qui est dirigée par Jimmy Carter depuis un an, découvre alors l'un des serial killers les plus abominables de l'histoire. Car en réalité, cela faisait un mois que le FBI traquait ce déséquilibré. Tout a commencé à l'est de Sacramento le 29 décembre 1977. Ambrose Griffin, un ingénieur, décharge des courses de sa voiture quand il s'effondre. Son épouse accourt vers lui, croyant à une crise cardiaque. Elle n'a pas entendu les deux détonations de carabine 22 long rifle, dont une a perforé le corps de son mari. Les secours n'ont rien pu faire. Ambrose Griffin est mort aux urgences, il avait 51 ans et était père de deux enfants. Lors de son autopsie, les enquêteurs retrouvent la balle de 22 long rifle qui l'a tué. Grâce à la balistique, on assiste alors au début d'une série de crimes, tous commis par le même homme avec la même arme, dans le même quartier de Sacramento, à quelques pâtés de maison de là où Griffin a été abattu. Courant janvier, le couple Edwards signale quant à lui à la police que sa maison a été cambriolée en pleine journée. Rien n'a été volé, mais fait étrange, les vêtements de leur bébé étaient couverts d'urine et des déjections jonchaient son petit lit. Robert Edwards a bien vu l'homme s'échapper par l'arrière de la maison. Il l'a poursuivi en vain. En déposant plainte, Edwards décrit un homme maigre, sale, aux cheveux bruns. D'autres faits émergent et collent à ce signalement, comme celui de cette vieille dame qui dit avoir vu l'homme en train de tenter d'ouvrir ses fenêtres, ou cette voisine qui apprend aux enquêteurs que deux jours plus tôt, on a tiré sur sa maison. Et surtout celui de David Wallin, qui en rentrant du travail découvre sa femme Teresa enceinte de 3 mois, éventrée du nombril jusqu'au sternum. Elle a été éviscérée et ses parties génitales découpées. La scène d'une barbarie absolue est insoutenable. Et si certains des organes sont éparpillés autour du cadavre, d'autres ont carrément disparu. Encore plus glaçant, les policiers découvrent un pot de yaourt qui a contenu le sang de la victime. Deux traces de lèvres sur les bords laissent penser que l'assassin a bu son sang. En enquêtant, le FBI comprend rapidement qu'avant d'être massacré, Teresa Wallin a reçu elle aussi 2 balles de 22 longs rifles, des balles qui appartiennent au même tireur que les crimes précédents. 4 jours plus tard, un nouveau crime est signalé à Sacramento. Cette fois, c'est un voisin qui a découvert l'horreur dans la maison de la famille Miroth. 3 cadavres. Celui d'un ami de la famille, Dan, 51 ans, gît dans une mare de sang dans l'entrée. Et le corps de Jason Miroth, 6 ans, au pied du lit de sa mère. Tous les deux ont reçu une décharge de calibre de 22 en pleine tête. Sur le lit, il y a le corps d'Evelyn Miroth qui, comme Teresa Wallin, a été totalement massacré. À l'aide d'un couteau, l'assassin a découpé l'abdomen de sa victime, a retiré des organes. L'autopsie révélera même qu'elle a subi des rapports sexuels après son décès. La police sait donc maintenant qu'en plus d'être un vampire et peut-être même un cannibale, l'homme recherché s'adonne à la nécrophilie. Mais en étudiant la scène du crime, la police comprend vite qu'il y a une 4e victime. C'est David, le petit-neveu d'Evelyn. Elle le gardait ce jour-là et il a disparu. Sauf qu'à en croire la trace de sang dans son berceau et la douille de 22 longs rifles, on peut être certain qu'il a été tué lui aussi et que l'assassin a emporté son corps. Une nouvelle fois, une voisine décrit l'homme, maigre, brun, aux cheveux sales. Elle précise qu'il était vêtu d'une parka de couleur orange. C'est aussi cet homme qu'a croisé Nancy Holden. Il l'a même abordé dans la rue. Elle ne l'a pas reconnu tout de suite, pourtant, c'est un ancien camarade de classe. Il portait bien une parka orange et il avait du sang sur les mains. Il lui a fait peur. En le dénonçant, Nancy révèle aux enquêteurs le nom de l'homme qu'il recherche depuis un mois déjà, Richard Chase. En l'arrêtant dans son appartement, le FBI découvre l'univers abject dans lequel vit Chase. Des traces de sang, il y en a partout. Des os traînent ça et là. Il y a des excréments au sol. C'est une puanteur. Richard Chase affirme qu'il a seulement tué quelques chiens. Mais la piste du vampire et du cannibale se confirme bien. Dans la cuisine, il y a 3 mixeurs remplis de sang. Et sur le lit de Chase, une assiette qui contient des morceaux de cervelle et d'autres organes baignant dans le sang. La cervelle, c'est celle du petit Jason. Après l'avoir décapité, Chase a eu le temps avant son arrestation d'aller déposer le corps dans une église. En tout, Richard Chase a donc commis 6 assassinats. Reconnu, malgré tout, sain d'esprit, il comparaît devant la justice américaine début 1979.
Le procès très médiatisé permet de revenir sur la vie de Chase, d'apprendre qu'il a grandi auprès d'une mère paranoïaque qui redoutait que son mari, le père de Richard, ne l'empoisonne. Que jeune adolescent, Richard Chase s'amusait à tuer des lapins et déjà à boire leur sang. Les ex-petites amies de Richard Chase révèlent, elles, au cours du procès, qu'il a toujours été impuissant. L'année qui a précédé les meurtres, Richard Chase est même allé jusqu'à s'injecter du sang de lapin à l'aide d'une seringue. Cela lui a valu un internement en hôpital psychiatrique, où même sous traitement, les infirmières avaient peur de lui. Au terme de 4 mois de procès, Chase est reconnu coupable, condamné à mort. En prison, il souffre de dépression, d'anxiété et a des hallucinations. On lui prescrit donc un antidépresseur très puissant. Durant des mois, il dissimule qu'il ne prend pas son traitement. Le 26 décembre 1980, Richard Chase avale toute sa pharmacie d'un coup et meurt à 30 ans d'une overdose dans sa cellule.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Richard Chase, nous sommes avec Angelica Montanari. Bonjour Angelica.
Oui, bonjour.
Bonjour Angelica Montanari. Vous êtes historienne et chercheuse à l'Université de Bologne, en Italie, et l'auteur de Cannibal, histoire de l'anthropophagie en Occident, paru aux éditions Arché. Ce qui frappe dans le cas de Richard Chase, ce n'est pas tant le nombre de ses victimes, 6 tout de même, mais l'intensité de ses meurtres. Il éventrait ses victimes, buvait leur sang, dévorait leurs organes. Ces actes atroces sont la définition même du cannibalisme?
Je dirais que les actes de Richard Chase sont bien sûr des actes de cannibalisme, mais qui ne peuvent pas définir de manière exhaustive le cannibalisme. Je m'explique. Le mot cannibalisme définit en fait l'acte de se nourrir des êtres de sa propre espèce, alors que anthropophagie signifie plutôt manger l'homme. Donc le cannibalisme concerne aussi la dévoration entre animaux et par rapport aux êtres humains, d'autres pratiques qui ne sont pas liées à la violence, par exemple la consommation des morts pour leur donner une sépulture.
Dans votre livre, vous citez Dante, pour qui le cannibalisme est, je cite, « une sauvagerie irraisonnée, une férocité dans laquelle n'intervient aucune pensée rationnelle ». Alors, c'est le cannibalisme de Richard Chase qui peut expliquer un tel manque de rigueur et de précaution dans ses meurtres. Finalement, il agissait comme une bête sauvage?
Je pense qu'on a l'habitude à évoquer la bestialité, la sauvagerie par rapport au cannibalisme. Et donc, Richard Chase, ça nous fait nous penser vraiment à une bête sauvage. En même temps, il manquait d'organisation et de rigueur, mais ce n'est pas parce qu'il était cannibale qu'il était si désorganisé. Et aussi, il n'agissait pas vraiment comme une bête sauvage, mais plutôt, je dirais, comme un psychopathe, un homme sadique, un nécrophile, hypochondriaque, et, comme je l'ai dit, quelqu'un très désorganisé.
Mais il était finalement trop malade psychologiquement pour être suffisamment calculateur. Il n'aurait pas fait une grande carrière de tueur en série. Stéphane racontait qu'il laissait des empreintes, il utilisait toujours la même arme, il tuait toujours dans le même quartier. C'est tout l'inverse de l'image qu'on a du tueur en série calculateur, froid, qui prémédite beaucoup.
Oui, tout à fait, c'est exactement ça. En plus, il ne planifiait jamais ses meurtres, il ne suivait pas un schéma précis, il n'avait aucun plan pour échapper de la police et aussi dans sa vie normale, il n'arrivait pas à mener une vie sociale avec les autres. Et il exprimait aussi la façon où il exprimait sa rage et sa méprise était très désordonnée.
Mais d'où, selon vous, a pu venir cette fascination qu'il avait pour le sang et la chair humaine? Dans votre livre, vous parlez de pratiques cannibales motivées par des pouvoirs de guérison. C'est ce que Chase a tenté de faire, se nourrir du sang et des organes humains pour se guérir de quelque chose?
Oui, c'est exactement ça. En fait, Chase pensait d'être toujours malade alors qu'il ne l'était pas. Il avait peur que son corps s'arrêtait de battre. En plus, il pensait que quelqu'un lui avait volé ses artères pulmonaires. Il croyait aussi que ses os du crâne s'étaient séparés, qu'ils bougeaient autour de sa tête. Donc, il pensait que pour survivre, il avait besoin du sang frais. Et il essayait tout le temps de se procurer du sang en tuant toutes sortes d'animaux et après des sangs humains et à tuer des victimes aussi pour arriver à des pratiques pratique de cannibalisme.
Les lapins ont la réputation des animaux sexuellement assez actifs. C'est pour ça qu'ils s'injectent du sang de lapin? C'est pour lutter contre son impuissance? On peut rappeler que ça marche pas. Hein.
Oui, ils ont dit ça. J'ai lu ça aussi, qu'ils cherchaient du sang parce qu'ils voulaient augmenter les sangs dans le pénis, oui.
Vous écrivez en revanche que le sang était parfois considéré comme utile dans le traitement de l'épilepsie ou comme antidote contre la vieillesse, une sorte d'élixir de longue vie. Est-ce qu'il y avait aussi des organes humains reconnus pour avoir certaines vertus?
Oui, bien sûr, hein, je parle du Moyen-Âge dans mon livre, hein, et il faut rappeler que la pharmacologie médiévale n'est pas très loin du miraculeux. Le médicament le plus renommé était sans doute ce qu'on appelait la momie, ou bien en latin c'était la mumia. Et ça change pendant le Moyen-Âge. En fait, au début du Moyen-Âge, elle est décrite comme un composé minéral, donc tout va bien là. Cependant, à partir du XIe siècle, ce terme « mumia » commence à indiquer aussi l'ensemble de déjections de cadavres. Ça change encore à la fin du Moyen-Âge. Ce qu'on appelle « mumie », ça devient tout simplement de la viande humaine séchée. Et aussi d'utiliser la graisse, les os réduits en poussière, c'est très fréquent. Par exemple, avec l'eau du crin, ils traitaient l'épilepsie et les maux de tête. Donc on peut vraiment dire qu'au Moyen-Âge, tout était bon dans le cadavre.
Mais en tout cas, il y a à la fois un tabou et une fascination autour de la viande humaine, non?
Oui, bien sûr. Oui, oui, c'est clair, c'était un tabou qui suscite d'intérêt.
Mais on sait quel goût ça a.
Moi, j'ai jamais essayé, donc je ne sais pas trop.
Je sais que la psychanalyste Marie Bonaparte, pour savoir quel goût avait la viande humaine, elle avait fait griller son appendice.
Ah. Oh, la belle anecdote. Merci Stéphane pour l'heure du goûter. On est bien là. Dans votre livre, vous racontez quelque chose d'intéressant sur le cannibalisme qui est très présent, on l'a compris, dans la culture et le folklore populaire, dans la littérature avec les contes Hansel et Gretel ou Le Petit Poucet par exemple, ou dans les films, aux séries avec les attaques des morts vivants. On adore ça. Pourquoi une telle fascination pour les monstres et les créatures qui voudraient nous manger?
Au niveau des fables, je pense que ces méchants anthropophages exorcisent un passé qui est encore effrayant, où les gens ont peut-être vraiment mangé des autres hommes. Par contre, en ce qui concerne le série, le film, enfin la télé, je pense plutôt que c'est un tabou et donc ça rend les gens curieux. Un cannibale, ça marche toujours dans un film, ça suscite l'intérêt du public.
Mais merci beaucoup Angelica Montanari. Je rappelle votre livre « Cannibale, histoire de l'anthropophagie en Occident » qui est paru aux éditions Arquet. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui ont vraiment du sang sur les mains. Après Anatole Desblair et Richard Chase, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai du rocker britannique Pete Doherty, qui a lui aussi du sang sur les mains, mais pas de panique. Hein. C'était dans le cadre d'un projet artistique.
Bien sûr. Je crois qu'on a atteint notre quota de tueurs pour aujourd'hui. Richard Chase, Anatole le bourreau sanguinaire, sans compter Stéphane, ces petits assassinats que vous perpétrez vous-même dans notre studio durant l'émission. On ne reviendra pas ici sur le meurtre prémédité dit de la gentille mouche innocente. Il était une petite mouche qui voltait gaiement dans le studio, insouciante et surtout inconsciente de ce qui allait lui arriver.
Une mouche?
L'ami des bêtes, mais pas de toutes les bêtes.
Non, mais ça va, vous n'êtes pas Mathieu Ricard quand même.
Je vous rassure donc, mon personnage du jour est un peu fêlé, mais il n'est pas cruel, comme Stéphane. Si Pete Doherty a du sang sur les mains, il ne s'agit que de son propre sang, qu'il a fait gicler sur des toiles dans le cadre d'une expérience physiologico-artistique. Bon, alors déjà, vous vous souvenez tous de Pete Doherty?
Je me souviens de ses obsèques, ça avait été très émouvant, oui.
Alors non, Stéphane, non, on croit tous que Pete Doherty est mort. Non, il n'est pas mort, il est en désintox prolongé. Mais c'est vrai, c'est assez miraculeux qu'il soit encore là. C'est même biologiquement étonnant, car voilà plus de 20 ans maintenant que Pete s'envoie dans le cornet, et pas que dans le cornet, tout ce qu'il est possible d'imaginer en termes de drogue. Jim Morrison disait « Les drogues sont un défi à l'esprit ». Et bien souvent, hélas, chez Pete, c'est la drogue qui a gagné le défi. Preuve donc, cette idée qu'il a en 2007, alors que son image se dégradait aussi vite que ses narines, de peindre avec son sang. À la clé, des œuvres d'art composées à partir de son hémoglobine, donc de sa bave, mais aussi de sa transpiration. Vous savez ce que se dit Pete ?
Je suis tout.
teubé.
Non, je suis génial. N'oubliez pas qu'il a pris de la drogue avant. Et il y a indéniablement du génie dans cette démarche, puisque certaines toiles vont se vendre 100 000 euros pièce. Pièce maîtresse de la morbide collection, la toile Lady Like, réalisée à quatre mains avec une autre star réputée pour ses excès.
Jean Castex.
Presque. Amy Winehouse. Lorsqu'elle était encore vivante, je précise. Bon, alors il faut préciser qu'à l'époque, Pete était quasi ruiné, qu'il avait absolument besoin de liquidité. Alors, ne lui jetons pas la pierre, comme l'a dit Stéphane en acceptant la pub Yellow Camping.
Il faut bien prendre l'argent là où il est.
Pourtant, avant de devenir un peintre discutable, Pete Doherty était un chanteur-poète éminemment doué et habité. Is it cruel or kind not to speak my mind until I see? C'est important de le rappeler, vu qu'aujourd'hui, on ne retient de lui que le côté défonce et dentition approximative. Pete Doherty voit le jour en 79 à Hexham, au cœur de cette Angleterre où il pleut 340 jours par an, où l'on mange des haricots rouges au petit-déj et où les enfants se passionnent pour le cricket. Fils de militaire, Pete passe une partie de sa jeunesse à voyager à travers le monde. Très tôt, il se passionne pour la musique, la littérature et plus précisément la poésie. Oscar Wilde, William Blake, Baudelaire et Rimbaud deviendront ses mettre à penser, le spleen, sa religion. Forcément, ado, quand il décide de se faire un peu d'argent de poche, quel petit boulot il choisit d'après vous? Sous-chef d'équipe chez Burger King? Non. Gardien de cimetière. Bien sûr, un lieu visiblement inspirant, puisque ses poésies sont primées par le British Council, qui l'envoie même en Russie représenter son pays. À 16 ans, il découvre les Clash, les Sex Pistols, et se met à la guitare. Avec un pote, Carl Barat, il crée The Libertines. Leur album Up the Bracket sort en 2002, et la célébrité instantanée. Pete découvre simultanément l'indépendance, la gloire et la drogue. Entre eux, c'est un triste coup de foudre. Pete devient accro, il se met très vite à voler pour pouvoir se payer sa dose. En 2003, il va même jusqu'à cambrioler un appartement, mais pas n'importe lequel, celui de son pote Barat, le type avec qui il a fondé le groupe. Arrestation, renvoi du groupe évidemment, c'est le début de la dégringolade pour Pete qui tente de se relancer en fondant un autre groupe dont vous n'avez jamais entendu parler Stéphane, les Baby Shambles. Le succès est plus mitigé, mais ça lui permet de se relancer suffisamment pour rencontrer Kate Moss. En la voyant, il ne se dit pas
« Oh là là, un tatouage, quand même, c'est osé hein !»
Non, il garde son calme hein, puisqu'il est rocker, ce qui va lui permettre, David, contrairement à vous, de la pécho. Pour la presse People, c'est du pain béni. Pete et Kate, c'est un peu les Neymar et Mbappé de la schnouf, si vous voulez. Leurs tribulations font chaque semaine la une des tabloïds jusqu'à leur surprenante séparation en 2007. Totalement démunis, au bout du roule, Pete fait ce que n'importe qui d'entre nous ferait, il se tape la meilleure amie de Kate Moss. Puis il regrette, il envisage le suicide, un soir il sort sur le balcon et enjambe le parapet, son meilleur ami lui dit
« Saute !»
Heureusement il ne l'écoute pas, il revient à la raison, mais pas longtemps. En avril 2008, il est condamné à 14 semaines de prison ferme pour conduite en état d'ivresse, et puis dans la foulée pour chantage et vol. En 2009, il se relance avec son premier album solo qui sera acclamé par la critique. Ça y est, Pete remonte enfin la pente, c'est ce qu'on a envie de croire, mais non. Lors d'un festival rock à Munich, il entonne les premiers mots de l'hymne allemand, sauf que c'est pas l'hymne allemand, c'est l'hymne du Troisième Reich. Das Bullet, Stéphane, Das Colossal Bullet, son agent en panique aura cette déclaration aussi ridicule qu'insensée. Pete lui-même a une ascendance juive et il s'est battu contre le racisme et le fascisme avec de nombreuses organisations comme Love Music Hate Racism. Super. La suite est d'une tristesse sans nom puisque Pete va aller vers des scandales de moins en moins rock et de plus en plus minables, des concerts annulés parce qu'il n'est pas en état de monter sur scène. Bon, ça encore, c'est assez rock. Mais il y a des anecdotes plus pathétiques comme lorsqu'il écrit sur son blog « Je suis en conflit avec la SNCF à cause de mon implication dans une affaire de chariots manquants contenant des habits du staff, de la viande froide et des couverts. » SNCF, viande froide, couvert, c'est le coup de grâce quand on pense que le mec a daté Kate Moss. Il n'y a pas que la vieillesse qui est un naufrage, la drogue aussi, car malgré une cure de désintox en Thaïlande et la reformation des Libertines en 2014, on ne sent pas encore notre Pete sorti d'affaire. Deux signes permettent de croire à sa rechute. Un, il réside désormais à Melun, en Seine-et-Marne.
Quelle horreur!
Qui peut choisir délibérément d'habiter Melun sans être sous l'influence de la drogue? Deux, en 2019, il est arrêté à côté de chez Stéphane Bern à Pigalle, alors qu'il procédait, je cite, à une transaction de produits stupéfiants sur la voie publique, en compagnie d'un ami qui, face aux policiers, jouera les ingénues, déclarant
« On peut se mettre de la cocaïne dans les veines ?»
Oui, monsieur Bern. Vous nous prenez pour des andis, diront les flics. Bref, depuis, Pete va beaucoup mieux. Il dit ne pas avoir consommé de drogue et d'alcool depuis 18 mois. C'est quelque chose d'énorme pour moi, confie-t-il. On se doute que c'est beaucoup pour toi. Source de renouveau, il s'est marié cette année à Étretat, entouré de ses amis qui ont crié
« Saute !»
Mais non, Stéphane, ils ont crié « Vive les mariés !» C'est sûr que des amis comme vous, il n'est pas prêt d'en sortir, le Pete.
Merci Mathieu, c'est passionnant. Alors, juste une petite précision, oui. Si vous voulez. L'hymne allemand est le même. Sauf que il n'a pas changé l'hymne allemand. C'est les paroles. C'est-à-dire qu'on ne, on ne chante plus le premier couplet.
On a gardé, vous voulez dire, la seconde partie.
On a droit, on chante la troisième strophe.
Et vous pensez
donc, en fait, c'est le même hymne. Donc il l'a pas su parce que quand vous allez sur les sites, j'ai été vérifié.
Ah, donc lui,
encore le premier couplet Deutschland,
Deutschland, il peut plaider la bonne foi. Il n'en sait rien.
Absolument.
Pauvre Pete, mais décidément, mais le cherche à chanter contre lui.
Franchement, j'étais prêt à l'accabler, mais là. Sur le coup de l'hymne allemand, je l'exonère.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour qui avaient du sang humain sur les mains pour retrouver celui qui a du sang aussi, mais du sang de canard. Ça fait moins peur.
Ah oui, c'est beaucoup mieux, puis ça nous met plus en appétit. Olivier Pouls, le canard au sang, voilà une vieille recette traditionnelle qu'il faut redécouvrir.
Oui, recette emblématique de la Tour d'Argent, évidemment à Paris, mais qui n'a pas été créée là-bas.
Nous verrons ça.
Et tout de suite, on retrouve David Cassel-Lopez qui remonte aux origines des boules à neige.
Cette chronique sur les origines de la boule à neige, je devais la faire depuis plus d'un mois, mais j'ai dû attendre quoi ? Eh bien, attendre que me soit livrée la boule à neige que j'ai commandée pour appuyer cette chronique. Regardez, je vous l'ai amenée. C'est une boule à neige avec à l'intérieur deux photos. D'un côté, une photo de toute l'équipe d'Historiquement Vôtre et de l'autre côté, une photo de notre Raïs, Stéphane Bern. Stéphane Bern, saint patron des choses passées, porte-parole de la pierre de taille. Je compte m'en faire un petit hôtel personnel à la gloire du patrimoine avec des bougies. C'est fou, l'autre jour, je vous assure, j'ai passé 5 bonnes minutes à secouer cette boule devant mes yeux et à m'émerveiller de voir ces flocons de synthèse danser devant nos visages, puis se poser mollement au fond. Ça m'a beaucoup apaisé. Voilà, je vous la passe. Amusez-vous.
Ah, moi, je vais la garder.
Pendant ma chronique, autant que je me suis amusé moi-même. Et donc.
Alors, vous avez vu, il y a deux façons de secouer la boule.
Oui.
Il y a ceux qui la renversent. Et vous l'agitez.
Moi, je l'agite, moi.
Vous l'agitez. Oui.
Je pense que c'est naturel chez moi.
Le renversement est peut-être plus efficace. Alors maintenant, peut-être
ah oui, depuis quand ça tournoie.
Oui. On peut peut-être parler un petit peu des origines de la boule à neige
qui a inventé cette belle
chose. Alors l'histoire la plus souvent racontée, c'est la suivante. Au début du XXe siècle, il y avait un monsieur autrichien qui s'appelait Erwin Persi. Erwin, son métier, c'était de concevoir des outils chirurgicaux. Mais dans l'effervescence de la fin du XIXe siècle, il essayait aussi de trouver des idées pour d'autres choses. Et l'une des choses qu'il cherchait, c'était une façon de faire en sorte que les lampes électriques brillent plus fort. Et il s'est dit, tiens, et si je mettais une boule en verre remplie d'eau devant une ampoule électrique, ça devrait la faire briller plus. Et si en plus, je mettais des petits confettis blancs à l'intérieur, ce serait encore mieux, non ?
Oui. Ah bah oui.
Ça marchait pas du tout. Mais en revanche, il a trouvé que ça ressemblait vachement à une sorte de tempête de neige dans un bocal. Et donc, il s'est dit qu'il y avait un coup à jouer qui n'était pas celui qu'il avait prévu au départ, à savoir commercialiser ses boules comme des souvenirs. Alors, cette histoire, c'est celle qui est racontée partout, par la BBC, par CNN, tout ça. Tout porte à croire qu'elle est vraie. En revanche, ce qu'on sait aussi, c'est que, en fait, Erwin, il a probablement réinventé la poudre, plutôt réinventé la boule à neige. Parce qu'on trouve la trace d'objets tout à fait similaires à celui qu'a inventé Erwin, plutôt en 1878, 22 ans avant son invention, à l'exposition universelle de Paris cette année-là. Il y avait visiblement à disposition des boules à neige comme presse-papier. En tout cas, la chose sur laquelle on peut s'accorder, c'est que Erwin, il a donné ses lettres de noblesse à la boule à neige, si tant est que c'est possible de donner des lettres de noblesse à une boule à neige. Il a créé une entreprise qui les fabrique. Au début, c'était systématiquement des scènes religieuses, et puis petit à petit, il a étendu son répertoire à des bâtiments touristiques, des bonhommes de neige, etc. Son entreprise, elle a été reprise par son fils, puis par son petit-fils, qui s'appelle tous Erwin. Donc c'est Erwin 1er, Erwin 2, Erwin 3. Et aujourd'hui, l'entreprise d'Erwin, elle vend quand même 200 000 boules à neige par an. Hein, un truc de fou. Alors, j'avais un rêve pour les auditeurs d'Historiquement Vôtre, c'était de leur faire gagner des boules à neige comme celle que vous tenez à la main, Olivier Pouls.
J'ai beaucoup de demandes, vous savez.
Oui, je m'y suis pris un petit peu tard pour prévenir les personnes concernées à Europe 1. Et comme il y a des aspects juridiques à la chose, on m'a dit que je ne pouvais pas en faire gagner aux auditeurs. En revanche, aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est très facile de se fabriquer sa propre boule à neige.
Mais bien sûr.
Il y a plein de sites qui le proposent. Et donc, j'invite les auditeurs à fabriquer Le Air Boule à Neige, spécial ben oui, Stéphane Bern, spécial non, historiquement vôtre, ou spécial moi aussi, c'est ben possible. Oui. Et je vous propose quelque chose. Vous prenez une photo de votre boule à neige, vous mettez cette photo en story sur Instagram, en me taguant. Et si vous voulez, vous pouvez aussi taguer Stéphane, Mathieu, Olivier, Clémentine, Europe 1, tout ça. Et moi, je m'engage personnellement à reposter la meilleure réalisation sur mon compte Instagram. Voilà, c'est un peu nul comme concours, je suis d'accord.
Non, on va avoir des très belles choses.
Mais au moins, c'est légal, vous voyez.
Alors celle-là, vous l'avez fait faire en Chine. C'est quand même sympa de penser que en Chine, dans une usine,
ils ont vu ces têtes. Ils ont dit mais qui sont ces gens?
Les photos de toute l'équipe ici. Exactement.
Et c'est des doigts de petits enfants qui ont découpé les flocons de neige.
D'où la qualité.
Et si, en fait, vous pouvez la démonter assez facilement. Et si ça va,
le liquide va sortir.
Non, le liquide ne sort pas. C'est assez rudimentaire. C'est une sorte de lame dans laquelle la photo est mise. Et si vous dévissez le socle, vous allez voir ça.
Ah, on peut changer la photo aussi. On se lave, par exemple. De merde, on peut prendre quelqu'un d'autre. Nagui à
comment
la place,
peut-on d'accord. Oui, c'est ça. Avisez-vous d'une chose pareille. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et évidemment sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre.
Olivier Pouls, tous les jours, vous nous donnez l'histoire d'une recette, d'un plat qu'on adore. Aujourd'hui, un plat qu'on adore mais qu'on mange rarement. Le canard au sang, recette emblématique, n'est-ce pas, oui. La Tour d'Argent, restaurant que vous fréquentez au moins un jour sur deux, mais qu'on a envie de découvrir.
Vous savez, il y a, dans la grande cuisine française, il y a l'oreiller de la Belle Aurore, il y a le lièvre à la Royale, il y a le canard au sang, ça fait partie de ces plats qu'il faut un jour dans sa vie avoir dégusté, à moins d'être évidemment vegan totalement décidé. Mais sinon, c'est vrai que ce sont des plats qu'on doit vraiment avoir goûté. Et pour le goûter, ben vous pouvez prendre effectivement la direction de la fameuse Tour d'Argent à Paris. Je vais y revenir dans un instant, puisque l'histoire du canard au sang, et en tout cas sa préparation, est très liée avec cette grande institution qui l'a toujours à sa carte aujourd'hui, pour la modique somme de 150 euros.
Ah oui, quand même.
Ouais. Mais si vous m'invitez, Stéphane, je peux parfaitement bien y aller.
Et si c'est le contraire.
Bon,
invitez-moi à déguster ce canard au sang.
Voilà, on va essayer d'organiser ça. Mais en attendant, ce fameux canard au sang n'est pas né à la Tour d'Argent, puisque sa paternité est attribuée de manière assez certaine à un certain Henri Denise, qui était le chef de l'hôtel de la Poste à Duclair, près de Rouen. Et il aurait inventé cette recette dans les années 1880 pour préparer, alors il faut le préciser, des canards étouffés et non saignés, parce qu'il y a besoin du sang du canard pour la recette. Donc les animaux ne doivent pas avoir été saignés. Et le nom de ce plat, pour ne pas effrayer les convives en le premier temps, n'était pas canard au sang, parce que c'était pas très vendeur. C'était canard à la Denise ou canard de Duclair. Alors, à l'époque, une basse-cour jouxtait son restaurant et à la demande d'un client qui était même éventuellement un peu pressé, le canard était attrapé, il était étouffé, il était plumé, il était rôti, il était préparé en à peine une demi-heure, trois quarts d'heure. Alors, la recette devient très populaire, les restaurants de Rouen la mettent à leur carte et à Paris, la Tour d'Argent en fait une de ses spécialités. Son propriétaire de l'époque, c'est un certain Frédéric Delaire. Il est originaire de Rouen. Et à partir des années 1890, il va réaliser cette recette, mais il va surtout la codifier et codifier son service en salle et avoir une idée assez géniale, c'est de numéroter les canards qu'il va vendre à ses clients. À l'heure qu'il est, il s'en est vendu plus d'1 500 000. Quand vous allez manger à la Tour d'Argent un canard au sang, on vous donne une petite carte avec le numéro du canard que vous avez mangé. Vous imaginez 1 500 000. Et donc c'est un cérémonial quand on va manger ça là-bas, parce que le canard est rôti. Il est ensuite découpé en salle par un maître canardier.
Ça existe. Le maître canardier.
C'est exactement. Il est en deux services. On va enlever les cuisses qu'on va recuire et qu'on va faire confire. On va vous servir les aiguillettes, les filets. Et on va utiliser la carcasse de l'animal pour lier la sauce au dernier moment. C'est-à-dire qu'on va mettre la carcasse dans une presse à canard. Un très bel instrument en argent.
Ils en ont vendu d'ailleurs.
Ils en ont vendu certaines, mais il leur
en
reste.
Ils en ont gardé d'autres.
D'accord. Et vous pressez la carcasse du canard, vous récupérez le sang, donc tout l'intérêt d'avoir cet animal qui a été étouffé, et le sang va permettre la liaison de la sauce au dernier moment. Alors, c'est une sauce qui est assez épaisse, qui a une texture très nappante, et qui va donc venir enrober votre canard. Si j'ai deux minutes, j'essaye de vous expliquer rapidement comment est faite la recette. C'est-à-dire que vous allez prendre un caneton ou un canard étouffé, réaliser une sauce à base de vin rouge, d'échalotes, de quelques épices et de quelques herbes. On va serrer cette sauce avec un peu de fond de canard.
Ça veut dire quoi, serrer une sauce?
On va la concentrer, si vous préférez, bien la concentrer. Et puis, quand on aura cuit le canard à part, on va récupérer les poumons et le cœur du canard, qu'on va presser dans la sauce, on va y rajouter un peu de porto, un peu de cognac, on va monter tout ça au beurre, et on va finir en liant la sauce avec donc le sang du canard qu'on aura récupéré en pressant la carcasse. Et voilà.
Sur les 1,5 million, vous en avez mangé combien?
Écoutez, je pense que j'en ai mangé 3.
Très bien.
Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Et pour terminer, c'est un affrontement où le sang ne coule jamais. Uniquement du jus de crâne qu'on va presser aussi. On va jouer avec l'histoire. Vous êtes prêts à vous affronter? C'est la lutte finale.
Historiquement vôtre.
Bon, vous connaissez le principe. Une question pour chacun en cas d'égalité. Une dernière question pour vous départager avec un chiffre à donner et faut s'en approcher au plus près. Alors, Olivier, Adolf Burger était imprimeur juif. Il est connu pour avoir tenté de déstabiliser le Troisième Reich par une opération de faux monnayage. Il est né en 1917 à Leidenstadt, vous avez compris. Il a inspiré la chanson de Jean-Jacques Goldman, né en 17 à Leidenstadt. C'est vrai ou c'est faux?
Non, je crois que c'est faux, parce que quand on écoute la chanson que je connais un peu, il essaie de comprendre ce qu'on aurait pu devenir ou ce qu'on aurait pu faire sans juger si nous-mêmes étions nés en 17 à Leidenstadt sur les ruines d'un champ de bataille. Donc je dis que c'est faux.
Bravo. Bam.
Belle démonstration.
Ah, belle démonstration. Même si Adolf Burger a existé, il n'a rien inspiré à Jean-Jacques Goldman, car la ville de Leidenstadt, elle, n'a jamais existé.
Elle n'existe pas, bien sûr.
David, il n'existe aucun portrait de Jeanne d'Arc qui ait été fait de son vivant. C'est vrai ou c'est faux?
Je dirais que c'est vrai.
Oh non! Mais, il y a quelqu'un qui a fait son portrait pendant le procès, notamment. Oui, le greffier du Parlement de Paris, c'est un garçon qui travaillait pour le greffier. Et en marge d'un texte, eh bien, il a dessiné Jeanne d'Arc.
Sinon, on ne pourrait pas savoir la tête qu'elle a.
Bah oui, exactement.
À posteriori, on aurait pu, quelqu'un qui l'avait connue, une fois qu'elle est morte, aurait pu dessiner.
Bien sûr. Le père, c'est pour vous Mathieu, père de Jeanne d'Arc, c'était Jacques d'Arc. C'est vrai ou c'est faux?
C'est faux.
C'est faux?
Non, mariage, non. Parce que,
Le père de Jeanne d'Arc, c'était Jacques d'Arc. Vrai ou faux?
Jeanne d'Arc. Pourquoi pas Jacques? C'était un prénom de l'époque, donc. Non, je dirais que c'est faux. Oh non,
si c'est
c'était
vrai.
Jacques d'Arc. Non, rigolez pas comme ça, vous m'enduisez d'erreur, comme dirait l'autre. Dégueulasse.
Il était laboureur à Don Rémy. On connaissait bien Jacques
d'Arc.
Dans
les Vosges.
Bah, le Jacques.
Il était tout le temps là avec sa charrue, vous vous souvenez?
Ouais, ils sont ses bœufs.
Alors, il n'y a pas besoin de questions qui départagent.
Non, c'est une victoire propre, nette.
Sans bavure, avec une explication.
D'Olivier Pouls qui remporte, voilà.
Même s'il ne savait pas que Leidenstadt était une ville inventée.
Oui,
vous l'auriez situé où? Vers Karlsruhe?
Ouais.
Mais il a utilisé ses connaissances pour répondre.
Faites donc votre malin, vous avez perdu.
Voilà, exactement.
Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève sur cette victoire triomphale belge. Montrez-moi vos mains, Stéphane. Montrez-moi vos mains. C'est bon, vous devriez pas vous faire prendre. Pas comme nos personnages du jour. Ils avaient tous du sang sur les mains. Lequel vous a le plus effrayé? C'était assez coupant quand même.
Écoutez, Richard Chase, j'ai eu des hauts le cœur.
Oui, c'était assez monstrueux.
C'était monstrueux ce qu'il a fait.
Disposez-vous déjà du programme de demain.
Oui, demain, où les menteuses? On réunit trois dames qui n'ont pas toujours dit la vérité, loin de là. La légende du Far West à la vie légendée Calamity Jane. La muse de Picasso, Dora Maar, qui s'est amusée avec la réalité.
Et Sharon Stone aussi. Elle a menti sur son cuit et sur la fameuse scène de Basic Instinct aussi. Mais on a tout entendu à son sujet. Oui, vous verrez, David, vous serez là, heureusement, parce que ça va être passionnant. Je vous raconte tout ça demain. Alors à demain, Stéphane, à demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.